traité de la réforme de l'entendement. L'expérience m'avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie ordinaire sont vaines et futiles. Je voyais qu'aucune des choses qui étaient pour moi cause ou objet de crainte ne contient rien en soi de bon ni de mauvais, si ce n'est en proportion du mouvement qu'elle excite dans l'âme. Je résolus enfin de chercher s'il existait quelque objet qui fût un bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l'âme, renonçant à tout autre, pût être affectée uniquement, un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternelle joie continue et souveraine. Je résolus, dis-je, enfin. Au premier regard, en effet, il semblait inconsidéré, pour une chose encore incertaine, d'en vouloir perdre une centaine. Je voyais bien quels avantages se tirent de l'honneur et de la richesse, et qu'il me faudrait en abandonner la poursuite si je voulais m'appliquer sérieusement à quelque entreprise nouvelle. En cas que la félicité suprême y fût contenue, je devais donc renoncer à la posséder, en cas au contraire qu'elle n'y fût pas contenue, un attachement exclusif à ses avantages me la faisait perdre également. Mon âme s'inquiétait donc de savoir s'il était possible, par rencontre, d'instituer une vie nouvelle, ou du moins d'acquérir une certitude touchant cette intuition, sans changer l'ordre ancien ni la conduite ordinaire de ma vie. Je le tentais souvent en vain. Les occurrences les plus fréquentes dans la vie, celles que les hommes, ainsi qu'ils ressortent de toutes leurs œuvres, prises comme étant le souverain bien, se ramènent en effet à trois objets. Richesse, honneur, plaisir des sens. Or chacun d'eux distrait l'esprit de toute pensée relative à un autre bien. Dans le plaisir, l'âme est suspendue, comme si elle eût trouvé un bien où se reposer. Elle est donc au plus haut point empêchée de penser à un autre bien. Après la jouissance d'autre part vient une extrême tristesse qui, si elle ne suspend pas la pensée, la trouble et l'émousse. La poursuite de l'honneur et de la richesse n'absorbe pas moins l'esprit, celle de la richesse surtout quand on la recherche pour elle-même, parce qu'alors on lui donne rang de souverain bien. Quant à l'honneur, il absorbe l'esprit d'une façon bien plus exclusive encore, parce qu'on ne manque jamais de le considérer comme une chose bonne par elle-même et comme une fin dernière à laquelle se rapportent toutes les actions. En outre, l'honneur et la richesse ne sont point suivis de repentir comme le plaisir. Au contraire, plus on possède soit de l'un soit de l'autre, plus la joie qu'on éprouve est accrue, d'où cette conséquence qu'on est de plus en plus excité à les augmenter, mais si en quelque occasion nous sommes trompés par notre espoir, alors prend naissance une tristesse extrême. L'honneur, enfin, est encore un grand empêchement en ce que, pour y parvenir, il faut nécessairement diriger sa vie d'après la manière de voir des hommes, c'est-à-dire fuir ce qu'ils fuient communément et chercher ce qu'ils cherchent.